en tant que secrétaire d'État à la condition féminine. Elle raconte cette expérience au micro de Danielle Stevens et Dolores Oscari.
Secrétaire d'État à la condition féminine, ça m'est tombé dessus littéralement. C'est-à-dire qu'un jour, le président de la République m'a téléphoné en me disant « J'aimerais vous voir, bien monsieur le président, est-ce que vous voulez être secrétaire d'État à la condition féminine ?» J'ai complètement ahuri. Ça n'est jamais entré dans mon imagination, ni dans mes désirs, ni dans mes vœux, ni dans quoi que ce soit de pareil, d'entrer dans un gouvernement. Alors j'étais très étonnée. Et j'ai parlé un petit peu avec lui pour comprendre pourquoi il avait imaginé ce secrétariat d'État, ce qu'il voulait faire. Il me l'a expliqué. J'ai vu qu'il voulait prendre plusieurs femmes ministres au gouvernement, ce qui n'avait jamais été fait en France, ni ailleurs d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça tout d'un coup intéressant. Et voilà comment j'ai accepté. Mais c'est tout à fait inattendu dans ma vie.
Inattendu aussi de savoir que Françoise Giroud, qui n'a jamais fait de politique de parti, mais qui pensait peut-être un peu plus à gauche qu'à droite et qui avait une certaine sympathie pour François Mitterrand, se retrouve dans un gouvernement de M. Valéry Giscard d'Estaing. Et là, vous disiez, oui, mais c'est un homme séduisant, c'est bien ça?
Non, je n'ai pas dit que c'était un homme séduisant. J'ai dit que c'était un homme dont l'intelligence était très séduisante, qui avait une grande séduction intellectuelle, ce qui est tout à fait exact. Mais en plus, j'ai fait l'ouverture avant la lettre. Je veux dire, Valéry Giscard d'Estaing, qui est un homme de droite, sans aucun doute, et qui n'aime pas qu'on le dise, mais enfin, c'est tout de même vrai, a eu, par rapport aux femmes, une vision extraordinairement claire, lumineuse. Et il est le seul homme politique qui a compris que ce qui se passait du côté des femmes dans ces années-là, dans les années 70, était un mouvement de fond tout à fait important pour la société française et pas une agitation d'intellectuels. Et ça, il faut lui rendre cette justice. Il l'a compris et il en a tiré des conséquences politiques et dans les faits.
Quand vous étiez à la condition féminine, par exemple, quel type de femmes rencontriez-vous ?
Bon, toutes. J'ai eu des délégations de toutes les catégories de femmes, des agricultrices, des syndicalistes, des femmes de tout genre.
Et quel a été alors votre tout premier objectif à ce moment-là ?
Mon premier objectif a été de prendre le code civil et le code du travail et de le balayer complètement de toutes les mesures discriminatoires. Ce que j'ai fait, ce qui a été fait.
J'essaie toujours un peu de vous cerner, François Giroud. On dit partout, et c'est vrai, vous n'êtes pas féministe, mais vous vous intéressez à la femme. Alors, où se trouvent les différences ?
Non, je ne suis pas féministe, je l'ai déjà dit, en ce sens que je ne suis pas sexiste. Je ne suis pas du tout, je ne me sens pas en état d'hostilité par rapport aux hommes. Je ne pense pas que tout ce qui m'arrive peut arriver de mal dans la vie à une femme vient forcément des hommes. Je refuse absolument cette position par rapport aux hommes. C'est en ce sens que je me suis toujours dit non féministe. J'ai toujours été agacée par un certain discours féministe. Ça, c'est une chose.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que c'est comme
parce
ça.
Parce qu'il est outrancier
Non, parce que je ne me sens pas en moi d'antagonisme à l'égard des hommes. Et que je n'ai pas de reproche particulier à leur adresser. C'est autre chose de constater ce qu'est la société, ce qu'elle était surtout il y a 20 ans, comment elle est en effet dominée par les hommes et combien il est difficile pour les femmes d'y évoluer, de s'y développer et combien elles ont été vraiment massacrées.
Que diriez-vous aux femmes qui n'ont qu'à chausser les charentaises de leurs aînés aujourd'hui ?
Il n'y a pas de femmes qui n'ont qu'à chausser les charentaises de leurs aînés. Leur situation n'est pas du tout si brillante qu'elles puissent mettre des charentaises. Ça a changé, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup, vite. C'est difficile à digérer, mais il y aura des très très grandes batailles encore à mener pour les femmes, ça j'en suis persuadée, à condition que ce soit des batailles collectives. Pour le moment, les batailles collectives ont disparu. Et les femmes se battent seules, chacune, à l'intérieur de sa propre vie. Et elles creusent son propre sillon, et beaucoup réussissent d'ailleurs à le creuser très bien. Et en particulier professionnellement, à faire des exploits. Mais je pense qu'il y aura quelques grandes conquêtes à faire qui seront de nouveau collectives.
Françoise Giroud dans l'émission Rencontres en 1988 et 1991. Impossible de parler des femmes de lettres sans évoquer Marguerite Yourcenar. Essayiste, poète, traductrice et romancière, Yourcenar est une femme de grande érudition qui n'a pas fréquenté les écoles, ce qui était encore possible à l'époque de son enfance, au début du XXe siècle. Elle a tout appris de son père, aristocrate, qui lui donnait des leçons particulières. Son bac en poche, elle a le privilège d'effectuer de nombreux voyages partout en Europe, Elle séjourne plus longuement en Italie, en Grèce, et se rend aussi aux États-Unis. C'est dans les années 20 que Marguerite Yourcenar commence à s'intéresser à Hadrien, empereur romain méconnu. La capacité de Marguerite Yourcenar à lire et écrire parfaitement le latin et le grec ancien lui sont alors d'une grande utilité. Elle entame un travail de très longue haleine, abandonné et repris plusieurs fois, qui l'amène finalement à l'écriture des Mémoires d'Hadrien, un essai historique publié en 1951. Écoutez l'écrivaine raconter la genèse de cette œuvre majeure qui va asseoir sa notoriété.
Je voudrais parler d'un être considérable, je parle d'Hadrien. Cet empereur, comment écrire les mémoires d'un autre? Parce qu'en réalité, c'est ce que vous avez fait.
Au fond, c'est beaucoup plus commode d'écrire les mémoires d'un autre que les siennes. On se connaît très mal. Et on est très capable de se tromper par vanité, par timidité, pour mille raisons. Tandis qu'avec un autre, on a une coudée plus franche tout de même.
Quelles ont été vos sources?
Il y en a beaucoup.
Alors, les sources
si vous parlez des sources historiques, enfin, si vous me demandez de quel document je me suis servi, elles sont nombreuses et variées. Parce qu'enfin, Hadrien, étant un empereur qui a vécu au IIe siècle, n'est déjà plus un de ces fameux Césars romains que nous voyons si souvent au théâtre, au cinéma, et dont nous entendons si souvent parler, comme Tibère ou Néron, qui ont eu le bonheur ou le malheur, peut-être plutôt le malheur, d'avoir autour d'eux de grands historiens, qui ont une fois pour toutes fixé l'idée que nous nous faisons d'eux. Hadrien vivait à une époque où les chroniqueurs étaient déjà beaucoup plus rares, plus disséminés. Il y a des textes sur lui, quelquefois datant de 40 ans d'après sa mort, quelquefois même plus nouveaux, quelquefois en grec et en latin, mais aussi dans certaines langues orientales que j'ai pu me faire traduire, comme le syriaque, etc. Et il y a aussi des documents, des fragments d'inscriptions, énormément de travaux légaux. Il était très grand légiste. Et on a ses décisions, en quelque sorte, au Conseil d'État, qui nous donnent une idée assez juste de son caractère.
Est-ce que vous avez suivi ces traces? C'était un très
grand
voyage.
J'ai suivi ces traces, sauf peut-être sur un ou deux points du monde. Je me trouvais encore, il y a 10 jours, sur ces traces, car j'ai visité une ville qui a été une de ces villes où je ne m'étais pas trouvé jusque-là. C'est León, en Espagne, où il a fait, si l'on peut dire, son service militaire, dans la 7e Légion.
En quoi la figure d'Hadrien vous séduit-elle particulièrement?
Eh bien, quand j'ai commencé ce livre à l'âge de 20 ans, en visitant comme tout le monde la villa Hadriana aux environs de Rome et en trouvant que c'était un fort bel endroit, j'étais évidemment surtout frappé par le grand amateur, le grand connaisseur d'art qui avait constitué là des collections magnifiques. Et j'ai laissé dormir ce manuscrit. Non, j'ai essayé tout de même 2 ou 3 fois de l'écrire, même une fois sous forme dramatique. Et il a pris le chemin du panier, heureusement. Et quand j'ai repris, quand j'ai retrouvé mes quelques notes, que j'avais naturellement perdu presque toute ma documentation, quand j'ai retrouvé quelques notes en 1947 environ, aux États-Unis où je me trouvais encore, je me suis rendu compte alors de nouveau, en relisant les textes qui concernaient Hadrien, qu'il y avait autre chose, il y avait le prince, il y avait l'homme qui, comme il le disait, avait essayé de stabiliser la terre en 1947. Ça commençait à devenir très intéressant. Et ma rédaction, alors, qui s'est faite vers 49-51, tient compte à la fois de l'homme qui était un helléniste passionné, qui a eu l'amour des voyages, qui a été en un sens un grand aventurier de l'esprit, et en même temps un grand empereur pragmatique, qui a tout de même donné au monde 50 ans de paix.
Quel est son visage le plus important? Est-ce que c'est l'homme d'État, l'homme de guerre ou le lettré?
L'homme de guerre, sûrement pas. Le malheureux a fait 15 ans aux armées, mais ce n'était pas l'époque de sa vie qui l'intéressait le plus. C'est certainement le grand homme d'État, le grand légiste, le grand administrateur qui avait la passion de, non pas seulement de Rome, mais de tout l'Empire, qui voulait arriver à établir chaque province de l'Empire comme une unité, et établir sa prospérité et l'installer dans sa culture et son autorité personnelle. Et c'était aussi un homme qui avait la passion de l'hellénisme et qui était très en avance sur beaucoup d'idées de son temps.
Marguerite Yourcenar, vous avez montré Hadrien gouvernant et agissant, mais vous nous avez aussi introduit dans sa pensée la plus intime. Alors je comprends qu'on puisse donner les mémoires de l'homme, mais entrer dans sa pensée intime, c'est faire de la psychologie, c'est...
Il y a moyen d'y arriver, pourtant.
Et comment y arriver?
Une des recettes très simples que je conseillerais, et que je conseillerais s'il s'agissait d'écrire la vie de votre grand-oncle, d'ailleurs, c'est de reconstituer ses lectures, de tâcher de voir enfin, ce qu'il lisait, les gens qu'il aimait voir, les ouvrages, les tableaux qu'il préférait, enfin, tout ce qui constituait sa nourriture intellectuelle et sentimentale. Alors, on se rend à peu près compte, enfin, de la manière dont sa pensée se dirigeait.
Pour conclure ce petit tour d'horizon, je vous propose de laisser la parole à Amélie Nothomb. Autrice belge très prolifique, elle publie un roman chaque année depuis la sortie de son premier ouvrage « Hygiène de l'assassin » en 1992. Amélie Nothomb obtient en 1999 le Grand Prix de l'Académie française pour son roman autobiographique « Stupeur et tremblement ». Cette année-là, Nicole Debar la reçoit dans l'émission Tête à Tête, il y a donc un peu plus de 20 ans. Amélie Nothomb raconte avec beaucoup de franchise et de spontanéité le Japon qu'elle a connu enfant, puis à l'âge adulte, et qui est au cœur de son roman.
Stupeur et tremblement, c'est votre huitième roman, oui. Mais ce n'est pas votre huitième roman, en tout cas, d'écriture. Vous avez commencé à écrire à 17 ans, donc c'est...
Et oui, donc en fait, c'est le 33e... Et j'ai 32 ans.
Oui, non, mais c'est fou, ça. Vous avez commencé à 17 ans, donc vous avez une sorte de compulsion à l'écriture?
Ça se fait malgré moi. Je suis d'une fécondité absolument maladive et j'assiste à cette fécondité avec beaucoup de passivité.
Donc si vous n'écrivez pas tous les jours, vous vous sentez mal?
Oh, je me donne toujours les moyens d'écrire parce que si vraiment, par extraordinaire, on m'en empêchait, ce serait l'enfer.
Et vous écrivez comment? Vous avez toujours un bloc-notes, un stylo?
C'est toujours des vieux cahiers pour écoliers en papier recyclé, à petits carreaux.
C'est plus doux.
Oui, puis j'ai aussi le culte du matériel de dernière qualité. C'est un côté japonais, une espèce d'humilité masochiste, de m'imposer des vieux bics qui marchent presque plus et du papier un peu dégueulasse. Parce que je suis sûre que si un jour j'avais un stylo Mont Blanc et du papier en vélin, ben ça marcherait plus.
Et quand vous dites c'est le côté japonais, pourtant on connaît pas mal de japonais qui aiment bien ce qui est clinquant aussi, et qui aiment bien ce qui est beau et qui aiment bien le luxe.
Oui, mais ça justement, ce n'est pas le vrai Japon traditionnel, celui que j'aime vraiment, qui au contraire est un Japon d'humilité, de retrait. Le nouveau Japon clinquant est une trahison de ce que les amoureux du Japon aiment.
Oui. En fait, vous avez quitté le Japon, parce que là, c'est la première fois que vous en parlez du Japon.
C'est vrai.
C'est la première fois que vous faites un retour en arrière,
oui.
Parce que vous étiez fille de diplomate, donc vous avez quitté le Japon à 17 ans seulement.
Non, c'est pas si simple. Je suis née au Japon et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, j'ai vécu dans tous les pays d'Asie possibles et imaginables, mais pas au Japon. Ah. Mais toujours avec une mythologie japonaise ancrée en moi, parce que je me souviens spécialement bien des 5 premières années de ma vie qui ont été absolument paradisiaques dans une maison japonaise à la montagne au Japon.
Dans la partie ancienne?
On peut le dire, dans le Kansai, dans le vieux Japon, pas Tokyo.
Et celui dont vous parlez d'ailleurs.
C'est ça. Donc, comme au cours de toutes ces années, je n'avais ni identité ni nationalité, j'avais décidé que j'étais japonaise. Et qu'à l'âge adulte, j'irais vivre au Japon. Et c'est ce qui a failli se produire, puisque donc à l'âge de 21 ans, quand j'ai fini mes études à l'ULB... Ah,
donc vous étiez revenue en Belgique?
À 17 ans, je suis revenue en Belgique, le temps de faire Roman à l'ULB.
Oui.
Et à 21 ans, avec mon diplôme en poche, j'ai pris un aller simple pour Tokyo, avec l'intention d'y passer toute ma vie. Et ça a bien failli se produire, puisque je me suis presque aussitôt fiancée avec un Japonais, ça je ne raconte absolument pas dans le livre. Et un an plus tard, j'ai trouvé un emploi. Et c'est cette année professionnelle que je raconte dans Stupeur et tremblement.
Ah donc ça c'est pratiquement vrai tout ce que vous racontez?
C'est à 100% vrai tout ce que je raconte.
Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenue?
À votre avis, quand on lit le bouquin et quand on voit combien ma vie professionnelle m'a épanouie...
Oui. Là je me suis dit que c'est votre plume d'écrivain qui avait vraiment extrapolé tout ça.
Non,
part de vérité.
Je vous assure, c'est vrai. Cette histoire est totalement vraie. Et n'étant pas masochiste à ce point, je suis rentrée en Belgique.
Alors, Stupeur et tremblement, ça commence très fort. Vous dites, machin était le patron de... Enfin, c'est incroyable.
C'est ça, Monsieur Haneda, je le
Monsieur,
cite...
Monsieur, oui, citez-le.
Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omochi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Donc, j'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement.
Ouais.
J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, je cite de mémoire, qui était aux ordres... de Monsieur Saito, qui était aux ordres de Monsieur Omochi, qui était aux ordres de Monsieur Haneda. Donc, j'étais aux ordres de tout le monde.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme ça que vous commencez un roman. C'est comme ça que vous commencez Stupeur et tremblement. Alors, c'est déjà
un peu un résumé. Ça commence par un résumé de l'histoire, parce que tout est dit par cette description inflexible de la pyramide hiérarchique. Les choses vont de bas en haut, enfin plutôt de haut en bas et pas dans l'autre sens.
Et alors justement, pour une occidentale qui est là, qui voudrait, en fait c'est un peu comme si vous faisiez un petit travail, comme beaucoup de,
oui,
de gens qui sont sortis des écoles, ils ont besoin de trouver un petit boulot. Donc vous avez trouvé un petit boulot là-bas.
Oh oui, sauf que moi je ne voulais pas trouver un petit boulot, je voulais trouver un vrai boulot à part entière. Seulement, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, quoi. Je savais pertinemment que quand on entre dans une entreprise japonaise, qu'on soit hyper diplômé ou pas diplômé du tout, de toute façon, on entre par l'extrême bas. Donc, j'acceptais cette condition
de base.
Comme
ça, vous connaissiez déjà.
Ça, je connaissais.
Alors, ce qu'on retrouve dans votre plume, Amélie Nothomb, c'est toujours cette fascination, soit pour le laid, soit pour le beau, soit pour un personnage. En général, les hommes sont assez scrofuleux. Enfin, on ne les aime pas trop. Mais là, l'héroïne, donc la Amélie, sans doute, oui, tombe follement en fascination pour cette jeune femme oui, magnifique, Mademoiselle Mori, qui s'appelle Fubuki.
C'est ça, il se trouve que j'étais aux ordres. Ma supérieure directe était une jeune japonaise d'une beauté absolument surprenante.
1m80, ce qui est très rare.
Ah non, elle était exceptionnelle. Déjà, il ne faut pas croire que les belles japonaises soient si fréquentes. Hein. La majorité des japonaises, je dirais plutôt qu'elles ne sont pas terribles. Mais c'est vrai que quand une japonaise se met à être belle, alors c'est vraiment saisissant.
1m80, grande, belle, un arc.
Un arc, je la décris comme un arc parce que vraiment elle me faisait l'effet d'être l'arc japonais justement. L'arc japonais est le plus grand de tous les arcs, il est plus grand qu'un homme.
Alors c'est que cette personne a un tel beau visage que l'héroïne ne peut pas s'empêcher de la regarder tout le temps. Elle veut en faire une amie, elle s'en fiche de ce qu'elle vit du moment que ce soit son amie.
C'est ça et comme en plus cette femme a l'air extrêmement douce et gentille, tout se passe très bien, c'est formidable. Je fais un boulot de merde mais j'ai une collègue géniale, c'est déjà fausse. Comme je n'ai jamais été quelqu'un de très ambitieux, en tout cas dans le monde de l'entreprise, ça me convenait parfaitement.
Vous écoutiez Le Fantôme de la radio, une émission écrite et réalisée par Éric Lauze, avec le précieux concours de la Sonuma, l'entreprise qui valorise les archives audiovisuelles de la RTBF. Alexandra Vassène vous attend après le bulletin d'information de 19h pour Sacré Français. Restez bien à l'écoute. Merci, chers auditeurs, pour votre présence et à la semaine prochaine.